Bonjour à nos auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce nouveau numéro de LBD, le podcast syndical de Sud Éducation. Aujourd'hui, je retrouve Manu qui s'occupe des questions de précarité à Sud Éducation afin de faire le point sur les dernières actualités et notamment sur la journée de grève des AESH annoncée pour le 19 octobre.
LBD. La base décide. La base diffuse.
Salut Manu, merci de répondre au micro de LBD. Je te propose qu'on discute ensemble de l'actualité syndicale qui concerne les personnels contractuels employés par l'éducation nationale, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire en cette rentrée.
Déjà bonjour à tous et à toutes. Effectivement, il y a beaucoup à dire à chaque rentrée. Chaque rentrée un peu plus, parce que chaque rentrée, il y a de plus en plus de contractuels qui sont embauchés dans l'éducation nationale. Et parmi ces contractuels, il y a des travailleurs, des travailleuses très précaires et qui sont souvent invisibilisés, qui sont les assistants et assistantes d'éducation et les accompagnants et accompagnantes des élèves en situation de handicap. Donc après... Ça s'inscrit, la contractualisation grandissante dans l'éducation nationale, elle s'inscrit dans une logique qui est à l'œuvre dans toute la fonction publique, à savoir qu'il y a de plus en plus de personnel contractuel pour remplacer les personnels fonctionnaires et des types de contrats qui sont ouverts, des types d'emplois qui sont ouverts à la contractualisation qui sont de plus en plus larges, quoi. Donc, de plus en plus de contrats de type CDD d'un an, de type vacation, de type contrat de projet, etc. Et après, c'est aussi, dans l'éducation nationale, ça existe depuis très longtemps. Et puis là, dans les autres versants de la fonction publique, c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans certains autres ministères et tout, où ils voient se développer cette contractualisation grandissante.
Donc on va commencer par aborder la question des AED parce que l'an dernier, on a pu assister à un mouvement de vie scolaire en colère, notamment dans les zones d'éducation prioritaire. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelques mots de ce qui s'est passé l'an dernier ?
Alors, on a assisté pendant l'année scolaire 2020-2021 à une mobilisation très importante dans les vies scolaires de la part des assistants et assistantes d'éducation. Une mobilisation qui est partie de la base, très clairement, puisque les premières journées de grève, elles sont parties de collectifs locaux qui s'étaient constitués pour la plupart l'année précédente pendant le mouvement de grève contre la réforme des retraites à Marseille, à Paris. Ça a essaimé. Il y a eu une première journée de grève nationale en décembre. Où il y a plein de collectifs locaux qui se sont constitués, des AED qui se sont mis en contact, ont décidé de faire des assemblées générales et puis de s'auto-organiser pour créer une dynamique de mobilisation locale. Il y a eu la mise en place d'une coordination nationale qui a regroupé tous ces collectifs, qui a élaboré des revendications et puis qui a appelé à plusieurs autres journées de grève et y compris des journées consécutives avec des appels à des grèves reconductibles. Donc on a vu une mobilisation qui était très importante et qui n'avait pas eu lieu depuis 2003 quand il y a eu la création du statut d'assistant d'éducation où il y avait une mobilisation dans les vies scolaires là aussi importante. Mais donc là on était dans une logique qui était assez nouvelle et voilà, donc on espère que là elle n'est pas retombée, que ça va repartir.
Et à Sud Éducation, quelle a été notre intervention aux côtés des assistants d'éducation pendant cette phase de mobilisation?
Nous on est favorable à l'auto-organisation des luttes et tout, donc on a suivi les appels de la coordination nationale en laissant les premières concernées décider des modalités d'action et des modalités de lutte qu'ils choisissaient. Et après, on a appuyé ça en relayant les appels à la grève, en faisant syndicalement aussi le travail pour que l'information soit transmise dans les vies scolaires, mais tout en respectant le calendrier qui est décidé par les collectifs locaux Il y a eu la mise en place localement de caisses de grève et puis le soutien matériel à l'organisation. Donc, imprimer des tracts, prêter un mégaphone, faire des tournées d'établissement pour relayer les informations sur les mobilisations décidées par les collectifs. Après, il y a eu aussi plusieurs stages de formation syndicale sur les droits des assistants et des assistants d'éducation qui ont été organisés conjointement par le collectif et par Sud Éducation dans certains départements. Et à la fin de l'année, il y a aussi eu plein de d'appuis syndicaux qui ont été donnés à des collègues qui, suite aux mobilisations, avaient vu leur contrat ne pas être renouvelé par les chefs d'établissement. Et on a apporté un appui syndical, juridique à ses collègues pour qu'ils puissent se défendre et essayer de faire annuler ces décisions de non-renouvellement, ce qui a fonctionné dans un certain nombre de cas et puis qui n'a pas fonctionné dans un certain nombre d'autres cas. Et là, il y a plusieurs procédures qui vont se poursuivre au tribunal.
D'accord. Mais ce qui veut dire quand même que l'intervention syndicale et la pression syndicale, ça a quand même son effet sur l'employeur, même si c'est une aussi grosse machine que l'éducation nationale.
Oui, parce que déjà, y a un certain nombre de règles à respecter qui, dans plein de procédures de non-renouvellement de contrat, sont absolument pas respectées. Notamment que, en fait, ça doit être justifié par des motifs. Et quand un chef décide de ne pas renouveler quelqu'un pour faire de grève, c'est pas un motif valable. Donc rien que ça, c'est un point d'appui pour faire annuler une décision.
Dans le cadre de la mobilisation des vies scolaires et des AED, il y avait une revendication qui était propre aux AED qui sont en éducation prioritaire ou en éducation prioritaire renforcée, qui demandait à bénéficier du versement de l'indemnité de sujétion particulière pour les personnels affectés en éducation prioritaire, puisque les AED et les AESH sont les seuls personnels de l'éducation nationale qui ne perçoivent pas cette indemnité. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour obtenir le versement de cette indemnité et que fait Sud Éducation sur le sujet ?
Alors, c'est plus ce qu'on appelle plus communément la prime REP ou la prime REP plus, qui est versée effectivement à l'ensemble des personnels exerçant dans les écoles et établissements classés éducation prioritaire, sauf pour les assistants et assistants d'éducation et les AESH qui en sont exclus. Donc l'année dernière, on a lancé une campagne nationale par rapport à ça, qui consistait à faire des recours juridiques pour forcer des décisions de justice pour obtenir le versement de cette prime pour ces personnels. Donc là, à l'heure actuelle, on a lancé un recours au Conseil d'État pour les assistants et assistantes d'éducation. Donc, on avait demandé au Premier ministre par courrier de modifier le décret sur le versement de la prime REPREP plus pour y inclure les assistants et assistantes d'éducation. Il n'y a pas eu de réponse. Et donc, à partir de cette non-réponse, on a pu introduire un recours au Conseil d'État. Et pour les accompagnants et accompagnantes des élèves en situation de handicap, donc c'est deux types de procédures différentes, parce que il y a un certain nombre de différences dans les contrats et tout qui font qu'on a choisi deux stratégies différentes. Donc pour les AESH, c'est plusieurs dizaines de recours individuels auprès des tribunaux administratifs qui sont lancés. Il y a des procédures qui sont en cours d'instruction et on attend sans doute prochainement les premières décisions de certains tribunaux administratifs. Et après, on ajustera en fonction de ces réponses et puis surtout en fonction de la réaction de l'administration derrière.
Est-ce que, pour préciser un peu, notamment sur la question des AESH au tribunal administratif, quel est l'argument qui est développé par Sud Éducation pour obtenir le versement de cette indemnité pour les AESH ?
C'est que dans les textes, c'est dit que parmi les personnels qui touchent la prime REPREP+, il y a les personnels sociaux et de santé. Or, les AESH sont rattachés, administrativement, au corps des personnels sociaux et de santé, puisqu'en fait, chaque métier doit être rattaché à une catégorie, on va dire. Et il s'avère que du coup, les AESH sont rattachés à cette catégorie-là. Et donc, selon toute logique, elle devrait toucher la prime REP. Donc c'est un peu la base sur laquelle on s'est appuyé pour rédiger les recours auprès du tribunal administratif.
Donc pour en revenir aux AESH, on va continuer de s'intéresser à cette catégorie de personnel en particulier. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur l'actualité de la rentrée des AESH? Qu'est-ce qui a changé cette année? Quelles sont les sources de dysfonctionnement?
Voilà, un petit topo, ça, je vais essayer, mais vu la lourdeur de l'actualité, là, ça va être un peu... Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, là, on est dans un moment un peu charnière, puisque... on est donc à cette rentrée, il y avait la généralisation des pôles inclusifs pour l'accompagnement localisé. Donc, c'est des regroupements d'écoles et d'établissements du second degré qui sont censés gérer, enfin, ça c'est les mots du ministère, hein, mais du coup, gérer au plus près des besoins l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Alors, c'est quelque chose qui est sorti en 2018-2019 lors de la concertation nationale sur l'école inclusive. Et qui après a été intégré dans la loi École de la Confiance de Blanquer, qui a été promulguée en juillet 2019, et qui prévoyait du coup qu'à cette rentrée, toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées soient intégrés à des PIAL, et que ce mode de gestion du coup soit généralisé sur l'ensemble du territoire. Donc là, on est là-dedans. En fait, derrière les PIAL, qu'est-ce qu'il y a? C'est la question de la mutualisation des moyens d'accompagnement. Les AESH sont affectés à ces PIAL et après, c'est en interne au sein du PIAL que les AESH sont affectés auprès de tel et tel élève pour les accompagner. En fait, il y a une augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap qui ont droit à une aide humaine et il n'y a pas d'augmentation des moyens. Du moins, même si dans certaines académies, il y a des recrutements, bah, en fait, les recrutements ne suivent pas du tout l'augmentation des besoins. Et donc, on demande aux AESH d'accompagner de plus en plus d'élèves pour de moins en moins d'heures. Voilà, il y a un certain nombre d'académies qui appliquent une règle qui est que l'accompagnement mutualisé, alors que bon, il n'y a plus d'accompagnement individuel hein, quasiment, il n'y a plus que de l'accompagnement mutualisé, et bah, c'est 5 heures d'accompagnement et puis voilà. Ou 6 heures. Donc voilà, la logique ministérielle qui est bien appliquée dans toutes les académies, bah, c'est d'essayer de réduire au maximum le temps d'accompagnement pour que chaque accompagnant et chaque accompagnante prenne en charge un maximum d'élèves. Il y a aussi l'autre logique qui est celle de regrouper les élèves ayant besoin d'une aide humaine dans les mêmes classes et du coup de demander aux AESH d'accompagner plusieurs élèves de manière simultanée. Quels que soient les besoins, voilà, parce qu'en fait, la question de l'évaluation réelle des besoins, bah, elle n'est absolument pas prise en compte. Hein. C'est quelque chose qui est complètement évacué. C'est-à-dire que jamais on demande au personnel qui travaille effectivement dans les écoles auprès des élèves ou dans les lycées ou les collèges auprès des élèves bah, de dire bah, qu'est-ce que c'est, selon vous, les besoins de cet élève, dans quelle matière il, elle, devrait être accompagné, pour quel geste, pour quel... voilà. Donc tout ça, c'est complètement balayé d'un revers de manche et puis on fait en gros du remplissage. Donc là, on a un moment où en fait le travail des AESH, il est complètement déstructuré et où en fait, il perd totalement tout le sens qu'il pouvait avoir. Que en fait, à tout ça, a pris le pas une logique de rentabilisation des moyens qui est jusque-là jamais vue. Là, on est dans quelque chose qui est très très lourd et voilà bon et puis en parallèle de ça bah en termes de d'un point de vue salarial ou d'un point de vue statutaire bah il y a rien qui avance puisque en fait bon on nous a vendu en 2019 une professionnalisation et tout ça bon concrètement il y a strictement rien c'est du vent et les soi-disant revalorisations salariales annoncées par Blanquer voilà, c'est pareil, il n'y a rien de concret, il n'y a aucune augmentation de salaire, et du coup, on se retrouve toujours dans la même situation où, en fait, les AESH, c'est un emploi qui est ultra précarisé, qui est contractualisé à outrance, et où, en fait, il n'y a aucune perspective de quoi que ce soit qui existe pour l'instant. Là, le salaire moyen d'un ou d'une AESH, c'est 750 euros. Voilà, et donc, le faible salaire, il est dû au temps partiel qui sont imposés, puisque en fait, on va dire la norme, c'est 24 heures d'accompagnement. Mais 24 heures d'accompagnement, ça ne représente pas un temps plein, ça représente une quotité de travail qui est d'environ 60%. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple, nous, on revendique que le temps de travail de 24 heures soit reconnu comme étant un temps plein. Puisqu'en fait, c'est la logique, puisque 24 heures, c'est le temps à peu près moyen que passe un élève ou une élève dans un établissement scolaire, quoi.
Et donc, pour reprendre tout ça, en fait, dans tout ce que tu nous dis, il y a quand même il y a un terreau de mobilisation, il y a un terreau de contestation. Par exemple, l'an dernier, dans une année compliquée, après le premier confinement, il y a eu deux journées de mobilisation marquantes pour les AESH. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces mobilisations
Alors, l'année dernière, pour la première fois, il y a eu un appel national et intersyndical à la grève. Donc, c'était le 8 avril. Et puis après, il y a eu une seconde journée de grève le 3 juin. Bon, concrètement, c'est la première fois qu'il y a un tel appel qui sort. Et c'est aussi la première fois qu'il y a autant de collègues qui se mobilisent. Parce que bon, des grèves d'AESH et avant des grèves d'AVS, bon, il y en avait eu. Ça mobilisait quelques centaines de collègues, c'était très compliqué. Et là, concrètement, il y a énormément de collègues qui ont franchi le pas de se dire ma colère, elle est tellement grande que je vais me mettre en grève, que oui, je vais aller manifester. Et on s'est retrouvé du coup à des milliers et des milliers de collègues AESH en grève et dans la rue. Donc, c'est quelque chose qui a été, je pense, assez inattendu, hein, que la mobilisation, elle soit aussi, qu'elle prenne une ampleur telle, et puis c'est révélateur de la colère qu'il y a et qui déborde totalement chez les collègues qui concrètement n'en peuvent plus, quoi. En fait, voilà, donc tout ce qu'on a décrit là, les conditions de travail et les conditions salariales qu'on a décrit précédemment, forcément, voilà, ça crée une colère et qui est venue dépasser la peur qu'il y avait avant. De se dire, mais en fait, si je me mobilise, mon contrat ne va pas être renouvelé. Si je me mobilise, je vais avoir des problèmes, etc. Et voilà, donc on a franchi un peu une nouvelle étape, une nouvelle ère dans la question de la mobilisation des AESH. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très positif et qui concrètement a contraint le ministère à faire des annonces en plein été, puisque dans le cadre du Grenelle de l'éducation, il n'y avait strictement rien qui était prévu pour les AESH. Et ils ont fini par... allouer une espèce de mini-enveloppe budgétaire pour créer une grille nationale de salaire qui auparavant n'existait pas, puisque chaque académie pouvait, comme elle voulait, mettre en place une grille ou non, voilà. Ce qui donnait du coup pour une même quantité de travail des salaires différents d'une académie à l'autre. Bon, alors il s'avère que cette grille nationale est désormais caduque, à peine quelques semaines après sa parution au journal officiel, puisqu'il y a eu, du coup, quelques semaines après, un mois après, l'annonce de la revalorisation du SMIC, ce qui fait que le premier échelon de cette grille tombe en dessous du niveau du SMIC. Donc, ils sont obligés de tout refaire, mais voilà. Et puis après, concrètement, cette grille salariale, les évolutions proposées, c'est largement insuffisant, ça ne correspond absolument pas à nos revendications. Mais il faut quand même noter que, de par la mobilisation du 8 avril et du 3 juin dernier, ça a forcé le ministère à faire ce qu'eux doivent considérer comme un grand geste et ce que nous, on peut considérer comme une part de mépris supplémentaire. Mais on a réussi à les forcer à faire quelque chose, ce qui peut nous pousser à dire qu'en fait, si on poursuit la mobilisation et si on continue, on va finir par gagner des choses.
Et du coup, vous avez décidé de remettre ça, je crois bien, d'ici peu de temps.
Exactement. Du coup, le mardi 19 octobre, il y a un nouvel appel à la grève intersyndicale au point de vue national pour continuer à apporter nos revendications qui sont du coup la question du statut, donc qui est la création d'un statut de la fonction publique que les AESH actuellement en poste soient titularisés au sein de ce statut. Après, nous, à Sud Éducation, on défend aussi la création d'un nouveau métier qui serait un métier d'éducateur et d'éducatrice scolaire spécialisée. Il y a la revendication sur la question des salaires, donc une réelle augmentation des salaires, pas 14 euros en plus. Ça, franchement, ça ne sert strictement à rien, nous n'en voulons pas. Voilà, on veut plusieurs centaines d'euros en plus. La question du temps de travail, donc comme je disais tout à l'heure, la reconnaissance que 24 heures d'accompagnement, ça correspond à un temps plein, donc à partir du moment où on a un contrat de 24 heures, on doit être payé à temps plein. La question de la formation, puisque en fait il y a un réel défaut de formation, que ce soit la formation initiale, puisque lorsqu'on signe un contrat, qu'on est recruté en tant qu'AESH, bah, on a soit pas de formation du tout, soit une formation qui est très largement insuffisante par rapport au travail qui nous est demandé, et par rapport bah, en fait, aux besoins de formation qu'on peut avoir sur la question du handicap, sur la question de l'adaptation pédagogique, sur la question de qu'est-ce que c'est l'école inclusive, etc. Les formations qui sont proposées dans les académies, elles sont totalement insuffisantes. Et aussi sur la question de la formation continue, parce qu'en fait, ce travail il nécessite de se former en continu. On est amené à accompagner des élèves qui ont différents types de handicap, dans différents niveaux, hein, de la maternelle à l'université. Voilà, ça nécessite de devoir se former en permanence. Pareil pour la question pour ce qu'on appelle les analyses de pratique, puisqu'en fait, on est quand même confronté à des situations très difficiles, à des situations où bah, on peut se retrouver dans l'impasse à certains moments et qu'on a besoin de pouvoir échanger entre pairs sur ces questions-là pour réussir à trouver et à élaborer des solutions pour les élèves, pour les amener à progresser, etc. Et ensuite, il y a la question du remplacement, parce que qui dit formation dit absence, donc qui dit absence dit création de brigades de remplacement, et qu'il faut qu'il y ait, au même titre que pour les personnels enseignants, enseignantes, il faut qu'il y ait des brigades de remplacement d'AESH qui soient mobilisables pour qu'on bah, puisse partir en formation ou pour remplacer bah, les congés maladie et tout ça, et qu'on ne demande pas aux autres collègues qui accompagnent déjà 5 élèves d'en accompagner 5 de plus, quoi. Et ensuite, sur les revendications toujours, il y a la question du coup de l'abandon des piales, hein, parce que donc, ce système il est néfaste à nos conditions de travail, néfaste aux conditions d'accompagnement des élèves. Donc on veut son abandon pur et simple, et par là aussi on veut en finir avec la logique de mutualisation des moyens, qu'il y ait des recrutements à la hauteur des besoins, et que l'évaluation qui est faite des besoins dans les écoles, dans les établissements pour les élèves, bah, ce soit respectée.
Et donc là-dessus, par rapport au 19 octobre, toi, en tant qu'AESH, quel message t'adresserais aux autres personnels de l'éducation nationale pour qu'ils et elles se mobilisent avec les AESH ?
Quel message adresser aux autres personnels ? Bah, c'est que les conditions de travail des AESH et les conditions d'accompagnement des élèves, ça va ensemble. Et que, en fait, du coup, ça concerne tout le monde. Le fait qu'au sein du service public d'éducation, il y ait des travailleurs, des travailleuses qui gagnent 750 € par mois, en fait, ça concerne tout le monde. Et ce qui se passe là avec les AESH, bon, bah, c'est en fait un peu l'avant-poste de ce qui va se passer pour toute l'éducation nationale. Parce que, en fait, on voit bien qu'on est dans une logique de contractualisation à outrance, on voit bien qu'on est dans une logique de... regroupement des structures, des écoles, des établissements où des systèmes de petits chefs, de coordonnateurs et tout ça qui se mettent en place. Voilà, et donc pour ce qui nous concerne, nous, en fait, tout ça, c'est déjà mis en place. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, moi, c'est qu'en fait, il y a à la fois la question de la solidarité des travailleurs et des travailleuses entre elles et eux, et puis il y a aussi la question de... En fait, la destruction du service public d'éducation, bah, en fait, elle a largement commencé, hein, et ce qui se passe par rapport à cette question de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, bah, c'est aussi, ça préfigure aussi de ce qui va se passer, quels sont les projets du ministère pour en finir avec ce service public.
Bah, écoute, merci beaucoup Manu d'avoir répondu aux questions de LBD.
Bah, de rien. Et tous en grève le 19 octobre.
C'était LBD, le podcast syndical de Sud Éducation. À bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, on se retrouve dans les mobilisations à venir contre la loi RIAC qui veut imposer un statut de directeur et directrice d'école en tant que manager. Le 19 octobre, aux côtés des AESH, afin de commencer la construction d'un mouvement contre la politique de casse du service public d'éducation.
La base décide. La base du film. Au combat,